Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Les informations, Pascal Masserica.
Les titres de l'actualité, rebondissement à Goma autour de la vente des cimetières et de l'exhumation des corps. À la faveur d'un arrêté signé dans la ville de Goma, le gouverneur Peter Chirimwami interdit les travaux sur tous les cimetières prétendument désaffectés dans la ville. Nord Kivu, encore les déplacés continuent d'affluer dans plusieurs localités et villages du territoire de Lubero. Il fuit les affrontements entre les FRDC et les rebelles du M23 dans les territoires voisins de Rutshuru. Notre invité, c'est le coordonnateur du projet de Médecins sans frontières MSF à Drodro. Aboubacar Dalo parle de la prise en charge des malades de l'hôpital général de la zone après le pillage de son matériel par des hommes armés. Madame, messieurs, bonsoir. Rebondissement à Goma de la désaffectation de la vente des cimetières et de l'exhumation des corps. Le gouverneur du Nord Kivu, le général Peter Chirimwami, a signé hier à Goma un arrêté interdisant les travaux sur tous les cimetières prétendument désaffectés dans cette ville. Explication de Gabriel Ouamenia.
Le gouverneur des provinces, le général-major Peter Chirimwami, vient de trancher net dans l'affaire de la désaffectation des cimetières et de l'exhumation des restes des corps des défunts sur les cimetières des litiges. Dans un arrêté provincial signé hier lundi et dont une copie est parvenue à Radio Kapi, le gouverneur des provinces vient carrément d'annuler l'arrêté de son prédécesseur signé le 15 avril 2021, désaffectant une portion du cimetière des litiges. Les sources proches du gouvernorat des provinces affirment que cette décision est motivée par la sauvegarde de la paix sociale dans une ville où la situation sécuritaire reste fragile. Dans ce même message, le gouverneur interdit également la poursuite de l'exécution de l'opération d'exhumation en cours dans ses chats de repos. Fin de citation. Cette décision de l'autorité provinciale est grandement saluée par les familles des défunts concernés. Tous projetaient déjà une marche de protestation ce jeudi pour dire non à la profanation des caveaux de leurs morts. On l'écoute l'un d'eux.
C'est une joie pour nous de voir ce que vient de faire monsieur le gouverneur. Vraiment, tout le monde est soulagé et que cette décision vraiment soit mise en application.
De son côté, l'avocat conseil des familles et des défunts s'est dit aussi satisfait de la décision du gouverneur. Goma, Gabriel Ouamenia, Radio Kapi.
Nord Kivu, encore les déplacés continuent d'affluer dans plusieurs localités et villages du territoire de Lubero. Ils fuient les affrontements entre les FRDC et les rebelles du M23 dans le territoire voisin de Rutshuru. Jusque-là, ils n'ont bénéficié d'aucune assistance et leurs conditions de vie sont extrêmement difficiles. C'est ce que nous explique à Beni Martial Papimukeba.
L'afflux des déplacés dans les territoires de Lubero est observé depuis l'occupation par les rebelles du M23 de Nyanzale, Kibirizi et la Rwindi dans les territoires de Rutshuru. Ces déplacés vivent dans des écoles pour certains et pour d'autres dans des églises ou familles d'accueil. Leurs conditions de vie sont extrêmement difficiles, comme l'explique Kavali Zawadi de l'organisation locale Groupe de volontaires pour la promotion de la paix.
Nous venons d'enregistrer avec le notable Nyumbakumi Amira 2012 ménages, Birundule 3472 ménages, Yobora 5002 ménages, Lusoa Bubishi 4913 ménages, Lusoa Bueri 1042 ménages. Beaucoup d'entre ces déplacés ont déjà perdu leur dignité d'être appelés personnes. L'axe Miranki, Lusoa Kanyabayonga jusqu'à Kirumba, les déplacés souffrent plus que même à Goma.
Des sources administratives locales affirment que certains enfants ont également été séparés des forces de leur famille pendant la fuite. Ils se retrouvent presque abandonnés. Leur prise en charge avant la réunification familiale est un autre besoin urgent, précisent les mêmes sources. Beni Martial Papimukeba, Radio Okapi.
En rapport avec l'afflux de 20 000 déplacés, l'administrateur du territoire de Lubero annonce une assistance en vivres du gouvernement congolais. Le colonel Alain Kiwewa assure par ailleurs que des mesures sécuritaires ont été prises pour protéger les habitants en proie aux rebelles du M23. Il est au micro de Marc Marofimbo.
Nous avons déjà plus de 20 000 déplacés de guerre jusque-là qui n'ont pas d'assistance et qui sont dans les familles d'accueil. Certains sont à l'église, d'autres sont dans les écoles. Le gouvernement a fait quand même un geste. Il doit assister en principe ces déplacés de guerre. Il y a le vivre qui sont déjà stockés. Demain mardi ou mercredi, la population sera assistée. Les mesures sécuritaires, nous avons toute une armée qui est devant nous. L'armée qui a le devoir de nous sécuriser. Et je suis sûr qu'ils vont sécuriser les territoires d'une manière convenable. Mais seulement la population, je demande en ces moments ici que nous soyons beaucoup plus unis. Parce que quand ça brûle, c'est chez les voisins et nous ne devons pas nous en réjouir. Aujourd'hui, on parle de Vichumbi aujourd'hui, qui est aussi une grande porte pour atteindre directement Lubero. Moi, je pense que tout de ces côtés-là, nos hommes, la population doit être vigilante pour que nous ne puissions pas être surpris un de ces matins.
Non loin de là, en Ituri, 15 miliciens d'une groupe armée Codeco comparaissent depuis hier après-midi en audience foraine organisée à Chomia, une cité située à plus ou moins 60 km de la ville de Bounia dans les territoires de Djougou. Ils sont poursuivis pour des crimes de guerre par meurtre, pillage et participation à un mouvement insurrectionnel. Les acteurs de la société civile et ceux des droits de l'homme saluent la tenue de ces audiences foraines qui sont appuyées par la MONUSCO. Pour en parler, retrouvons à Bounia Ezekiel Mouzalia.
Le tribunal militaire de garnison de Bounia, siégeant en chambre foraine à Chomia dans le territoire de Djougou, statue depuis lundi sur deux dossiers des prévenus, tous impliqués dans plusieurs cas de meurtre, pillage, extorsion des biens des civils. Des faits qui datent de 2019 et 2020 lors de l'incursion de ces hommes armés dans ces territoires en proie aux conflits armés depuis plusieurs décennies dans la province. Le premier dossier concerne 8 prévenus cités comme principaux commanditaires de l'attaque des villages Solaya qui avaient coûté la vie à de nombreux civils. Le second concerne 7 assaillant du même groupe armé, dont une femme également accusée de plusieurs cas de meurtre à Sayo dans la commune rurale de Mungwalu. Au terme des enquêtes qui ont été lancées par les autorités judiciaires avec le soutien de la MONUSCO, ces prévenus sont poursuivis pour crimes de guerre par meurtre, pillage et participation à un mouvement insurrectionnel. Jean-Georges Niamé, chef de section d'appui à la justice de la mission onusienne.
Le soutien de la MONUSCO se fera sur le plan technique. S'assurer du respect des standards internationaux en matière de jugement des crimes internationaux devant le tribunal dans le respect des droits de la défense.
La société civile et des activistes des droits de l'homme saluent la tenue de ces audiences qui visent à rapprocher la justice des justiciables et servir d'exemple aux auteurs des crimes contre l'humanité en province. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Autre nouvelle sur Radio Okapi ce soir. À Bukavu, des dizaines de maisons du quartier Panzi dans la commune du Banda ont été inondées cette nuit par les eaux de la Ruzizi. À la base, le glissement de terrain survenu sur l'autre rive du côté rwandais où une colline s'est affaissée dans le lit de la rivière. Les sinistrés crient au secours. Leur délocalisation s'impose urgemment. Le récit d'Emmanuel Elmejo Kabedi.
Plusieurs habitants du quartier Panzi se sont réveillés les pieds dans l'eau de la rivière Ruzizi qui sépare la RDC du Rwanda. La nuit de lundi à ce mardi, la colline de Nyiratengo à Nyamagane au Rwanda s'est une fois de plus affaissée, s'est déversant dans la rivière Ruzizi, c'est au niveau de Bouozi en territoire de Kabare. Ruzizi ainsi gonflée, l'eau s'est déversée dans les habitations du quartier Panzi, comme le confirme un témoin sur place.
Et dans la nuit, il y a eu des boulements de terre qui a encore partagé la rivière Ruzizi et l'eau continue à percer et à inonder dans le village de Bouozi.
Déjà en février dernier, les mêmes causes avaient produit les mêmes effets au même endroit. Les chercheurs proposent la délocalisation immédiate de tous les habitants de cette zone avant que le pire n'arrive.
C'est un phénomène qui est bien connu puisqu'il s'agit d'un glissement de terrain qui a été identifié déjà depuis les années 50. C'est un des glissements de terrain qui est très actif. Donc on est sur un énorme glissement de terrain de plus de 80 hectares vers la rivière Ruzizi.
Cette situation risque d'impacter négativement sur la centrale hydroélectrique de la Sinélac qui dessert la RDC, le Rwanda et le Burundi en électricité. Emmanuel Elamejoa Kabedi, Bukavu Radio Kapi.
Venons-en maintenant à la construction du micro-barrage des chutes Mbombo dans la province du Kasaï central. Le bureau central de coordination Beseko en sigle et l'entreprise moderne ont signé hier après-midi à Kananga un contrat pour la construction de la route qui mène vers le site. Cette route va faciliter le transport du matériel sur les lieux où le micro-barrage sera érigé. Reportage à Kananga de François Kadima.
Cette route de 10 km partira de l'avenue Nkonko dans la commune de Langanza jusqu'au site. C'est le premier contrat qui consiste à construire la route en béton pour donner accès au site et y placer de l'éclairage public. Le directeur général du Beseko, Jean Mabi, explique.
10 km bétonnés pour faciliter l'accès sur le site parce qu'on va amener des gros engins. Si on fait une route en terre, cette route-là ne restera pas longtemps. C'est pour ça qu'on va bétonner cette route-là. Les études sont finies, ce qui a donné lieu justement à ce qu'on négocie pour lancer les travaux.
Ces travaux dureront 8 mois selon les clauses du contrat signé entre Beseko, qui est maître d'ouvrage, et Modern Construction, l'entreprise qui exécute le marché. D'autres contrats suivront. C'est notamment celui lié au transport, aux travaux de génie civil ainsi que la pose de tribunes. Déjà, l'entreprise Modern Construction s'est dit être engagée à exécuter et finaliser ces travaux de la route et du micro-barrage Chute Mbombo. André Mbangou est son directeur général.
Pas de l'électricité, il n'y aura jamais le développement. Et que nous sommes très actifs pour contribuer à la construction de ce barrage.
Signalons que le micro-barrage Chute Mbombo pourra produire, s'il est fini, 10 MW dans la première phase et permettra à la population de la ville de Kananga d'avoir de l'électricité. De Kananga, François Kadima, Radio Kapi.
Bonne nouvelle pour la Miba. La minière de Bakwanga a signé la semaine dernière ici à Kinshasa un contrat de prêt et de commercialisation du diamant avec le centre-ville groupe, une firme américaine, pour 45 millions de dollars américains remboursables en l'espace de 7 ans au taux d'intérêt annuel de 3%. C'est ce que nous explique en Mbujimayi Esther Ndalafina.
L'entreprise Centreville Group vient de débourser 45 millions de dollars pour financer le plan de relance minimum, le présenté par la société minière de Bakwanga Miba. Ces fonds sont remboursables sur une durée de 7 ans au taux d'intérêt annuel de 3%. Pourtant, c'est depuis 2 ans que la Miba attend toujours du gouvernement congolais et d'autres partenaires plus de 400 millions de dollars pour la relance totale des activités de production du diamant. Dans le communiqué publié la semaine dernière, la direction générale de la Miba a démontré son avantage majeur dans cette association avec Centreville Group, qui est cette opportunité que lui apporte son partenaire de vendre son diamant au meilleur prix sur le marché national et international et que le bénéfice fera l'objet d'un partage à part égale entre les deux sociétés. Cependant, plusieurs observateurs sont sceptiques quant à la signature de ce contrat à l'absence de l'actionnaire minoritaire Sibeka. Le président du conseil d'administration et les directeurs généraux de la MIBA ont signé ce contrat qu'avec une personne qui a représenté la société Centreville Group, une firme du droit américain sans aucune représentation en République démocratique du Congo et dont le lien faisant référence à cette société sur Google ne s'ouvre pas. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Kapi.
Économie encore avec la poursuite dans la province du Kwilu de la réhabilitation du pont Kabangu qui s'était écroulé au mois de février dernier à l'entrée de la cité de Bulungu. Les responsables de l'office de route assurent que cet ouvrage va désormais supporter un important tonnage. C'est ce que nous explique à Bandunduville Irène Mbomaluzolo.
Vieux de plus de 50 ans, cela fait déjà plus d'un mois que le pont Kabangu jeté sur la rivière portant le même nom à Bulungu, chef-lieu du territoire de Bulungu, s'était écroulé, coupant ainsi le trafic entre cette entité et Kinshasa, ainsi que le reste des territoires du Kwilu. Cela après le passage d'un gros véhicule, alors que l'ouvrage était en pleine réhabilitation, a indiqué le directeur provincial de l'Office des routes du Kwilu. L'ingénieur Michel Miseka rassure que dans un bref délai, le trafic sera à nouveau repris car selon lui, les travaux de montage du nouveau pont devant remplacer celui écroulé sont en cours d'exécution.
Pour lancer le nouveau pont, il a fallu d'abord démonter l'ancien. Et nous sommes maintenant là à la phase du montage de ce nouveau pont. Le pont, quand ça arrive, ça vient détaché. Maintenant, il faut attacher chaque élément pour constituer un pont. C'est un pont métallique. Le pont sera bientôt praticable, si tout va bien, dans 2 semaines.
Signalons que le pont Kabangu est d'une importance économique très capitale car il permet l'évacuation des produits agricoles dans les grands centres de consommation comme à Kinshasa et ailleurs. La société civile de Boulungu salue les travaux de montage de cette infrastructure et souhaite que les dits travaux puissent aller jusqu'au terme. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au Sénégal, le feuilleton de la crise électorale connaît enfin son épilogue après l'épisode du report de l'élection présidentielle puis l'invalidation du décret irrelatif par le Conseil consultatif. Les Sénégalais iront aux urnes le 24 mars pour le premier tour de ce scrutin. Le président Macky Sall a fixé cette date lors du Conseil des ministres alors que le Conseil consultatif a proposé la date du 31 mars. Avant de confirmer celle choisie par le chef de l'État. Haïti continue d'être plongé actuellement dans une nouvelle spirale de violence après que des membres des gangs lourdement armés ont facilité une évasion massive de prison cette nuit et exigé en même temps la démission du premier ministre du pays, Ariel Henry. Selon un communiqué publié aujourd'hui par le gouvernement, deux prisons, l'une à Port-au-Prince, la capitale du pays, et l'autre dans la commune voisine des Croix de bouquets ont été prises au cours du week-end. En réponse, un couvre-feu nocturne a été imposé. Un avion militaire russe transportant 15 personnes s'est écrasé cet après-midi à cause de l'incendie d'un de ses moteurs au nord-est de Moscou. La nouvelle est confirmée par le ministère russe de la Défense. La source précise que ce crash est dû principalement à l'incendie de l'un des moteurs lors du décollage de l'avion.
L'invité.
Notre invité, c'est le coordonnateur du projet de Médecins sans frontières MSF à Drodro. Aboubacar Dalo parle de la prise en charge des malades de l'hôpital général de Drodro après le pillage de son matériel par des hommes armés. Il s'entretient avec Ezekiel Mousalia.
Monsieur Aboubacar Mbalo, bonjour.
Bonjour.
Une semaine après cette attaque, quel état des lieux vous faites de la situation de l'hôpital de Drodro?
Bon, ce qu'il faut noter, la situation reste relativement tendue dans la zone à la suite de cet incident. Aujourd'hui, ce qu'il faut noter, que l'hôpital n'est plus fonctionnel, donc du matériel médical dérobé. Une patiente a été tuée au niveau de l'hôpital, donc le service n'est plus fonctionnel. Les patients n'ont plus accès aux soins au niveau de l'hôpital général de Drodro.
Et quel est le sort des autres malades qui ont survécu ces drames?
Ce qu'il faut noter, pendant l'incident, le lendemain, on a évacué toutes nos équipes vers Ro, ou avec les patients, où nous continuons à assurer un minimum de soins pour ces patients qui sont alités. Pour le moment, on ne peut pas parler de bilan précis parce que voilà, on a vu la situation, on était obligé d'évacuer rapidement, de fuir vers le camp de Ro. L'hôpital a été pillé, notamment la salle de service de chirurgie, mais aussi le service de l'INTI où on prend en charge les cas de malnutrition aiguë. Voilà, ces deux structures ont été pillées. Et des structures sanitaires, notamment le centre de santé de Drodro qui est annexé à l'hôpital de référence.
Une patiente a été tuée sur son lit d'hospitalisation. Et MSF a fermement condamné ces crimes. Comment comprendre un tel acte et est-ce que vous avez espoir qu'il soit le dernier?
Effectivement, nous avons condamné cet acte parce que l'acte est incompréhensible de... Une patiente qui est alitée, sans défense, on vient froidement l'exécuter au niveau de l'hôpital. C'est condamnable, c'est horrible, c'est inadmissible. Et c'est pourquoi on exhorte toutes les parties au conflit de respecter les structures médicales, de protéger la mission médicale pour qu'on puisse continuer à apporter les soins pour les deux communautés.
La situation sécuritaire se dégrade davantage dans les territoires des Djougou. C'est à cause des violences justement communautaires. Alors comment cela affecte vos interventions sur le terrain et même sur la prise en charge des malades?
Ça affecte parce que quand il y a des incidents, aujourd'hui, on est, comme je l'ai dit, on est présent au niveau du poste de santé du camp de Ro, où nous assurons le service minimum. Donc aujourd'hui, certaines prises en charge n'est plus possible parce que voilà, l'hôpital a quand même un plateau technique qui permettait de prendre en charge certains patients de cas compliqués, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui parce que l'hôpital est pillé, donc l'hôpital n'est plus fonctionnel. Donc ça impacte déjà la prise en charge des cas compliqués de ces des communautés dans le besoin, mais également une réduction des autres activités humanitaires, que ce soit pour MSF, que ce soit pour d'autres organisations qui étaient présentes dans la zone. On essaie vraiment de prendre les cas qu'on peut prendre en charge au niveau du poste de santé de Ro, où le plateau technique n'est pas quand même aussi relevé qu'on dans un hôpital. On est en discussion aussi avec partenaire avec la MONUSCO pour pouvoir faciliter le référencement des cas compliqués vers Bounia pour une meilleure prise en charge, tout en sachant que les axes routiers aujourd'hui ne sont plus accessibles pour pouvoir faire des évacuations par voie terrestre.
Quelles sont vos attentes maintenant après cet incident vis-à-vis des autorités pour vous aider à mieux remplir vos missions d'intervention humanitaire en faveur de la population?
Ce que nous, les humanitaires, nous demandons, c'est plus de garanties sécuritaires pour pouvoir continuer à supporter les communautés. Parce qu'aujourd'hui, la situation quand même à Drodro, notamment au niveau du camp de Ro, reste assez préoccupante. Déjà, les conditions étaient difficiles avant même l'arrivée de cet dernier incident regrettable. Aujourd'hui, les populations vivent dans des conditions difficiles, des problèmes d'approvisionnement en nourriture, des problèmes d'approvisionnement en eau, impact déjà ces communautés. Je pense que si on a les garanties sécuritaires nécessaires et l'accès humanitaire sécurisé, on pourra vraiment continuer à soulager les communautés dans le besoin. Donc, nous lançons un appel vraiment aux autorités pour pouvoir assurer une meilleure sécurité et un meilleur accès pour les humanitaires.
Monsieur Aboubakar Mbalo, merci.
Merci beaucoup.
C'était l'invité de Radio Okapi, le coordonnateur du projet de Médecins sans frontières à Drodro. Aboubakar Dalo était interrogé par Ezekiel Mouzalia. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci d'avoir écouté.